Aujourd'hui, nous continuons notre étude de Colossiens. Donc, la semaine dernière, Daniel s'était chargé des 11 premiers versets du chapitre 3, qui n'était pas un chapitre très gai, puisqu'il mettait en avant toutes nos faiblesses. Et aujourd'hui, on va aborder donc le verset 12 à 17 que nous lirons plus tard, parce que je ne pense pas que ce sont des versets que l'on peut lire comme ça directement. Hors d'un certain contexte, ils prennent pas de sens. Et le contexte, en ce moment, nous n'en manquons pas. Et je voulais commencer par ça, par le sentiment de désarroi qui est le mien, qui doit être le vôtre en ce moment, d'abattement, voire d'impuissance, hein, par rapport à tout ce que nous vivons. Je me souviens quand j'étais jeune, il y a longtemps, je croyais que les adultes savaient tout. Les grandes personnes qui nous dirigeaient, qui, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau national, au niveau familial, au niveau de tout ce qui faisait notre vie, ils savaient des choses que je ne savais pas encore. Ils avaient une sagesse, une force d'âme, un savoir. Et puis maintenant que j'ai 55 ans, que j'ai l'âge de ces gens-là, je me rends compte qu'on ne sait rien, qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'est en fait extrêmement décevant et inquiétant, et que toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, et que nous ne faisons que passer dans une suite de générations qui finalement ne résolvent pas plus les problèmes les unes que les autres, et le monde continue d'avancer K1, K1, et on a l'impression qu'en ce moment c'est plus K que K1. Alors, je suis venu avec beaucoup de littérature, vous avez vu, parce que moi, j'aime bien que ma foi soit liée à ce que je vis au quotidien, comme nous tous, nous ne sommes pas, malgré ce que nous souhaitons, retirés du monde. Alors, j'ai pris les deux dernières couvertures du Point. Donc là, c'est notre guerre. Ça s'appelle « La France se bat ». Et donc, vous êtes évidemment au courant de tout cet environnement mortifère qui nous entoure. Et puis, il commence la semaine prochaine, là, même demain, la COP21. Où on apprend que notre planète n'a jamais été aussi chaude que depuis 1870, les dates des premiers relevés, merci, sur les températures. Et alors, lorsqu'on feuillette ces journaux, on est dans des titres épouvantables. Alors, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que vous avez, par exemple, un article, Bruxelles, QG de Daesh en Europe, vous tournez deux pages et vous tombez sur une pub Éric Bompard, le Cachemire irrésistible. Vous tournez la page, le supermarché des terroristes et à côté une pub sur le Crédit Mutuel. Vous continuez. 20 ans avant, en 95, le terrorisme islamiste frappait en France. Heureusement qu'à côté, Toshiba nous propose un bel ordinateur et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Un dernier, ce qu'il pense de nous, avec une photo très anxiogène. Et puis la page d'après, évidemment, nous avons, heureusement que Mitsubishi nous propose une superbe automobile qui va nous permettre d'avancer plus loin et mieux. Cette espèce de télescopage entre la vérité des faits, l'horreur du monde, qui nous touche encore plus parce que c'est chez nous, mais bon, il faut bien s'imaginer que ces guerres-là, elles durent depuis longtemps, et il y a des peuples qui souffrent quotidiennement, et finalement, on ne s'en préoccupe pas trop parce que c'est loin, mais toujours, les hommes continuent à vivre, à faire ce qu'il faut pour que le business fonctionne, parce qu'il faut se nourrir, continuer d'exister, continuer de se croire important, et c'est peut-être pour ça que la Terre tient depuis si longtemps, c'est que l'homme a un pouvoir d'oubli, et un pouvoir de renaissance au quotidien de façon très terre-à-terre qui est assez stupéfiant. Et alors, je vais même aller plus loin dans les choses qui nous font peur. Je vous ai amené quelque chose que ça ne doute jamais vu. Si, c'est un Coran. Mon père m'a offert le Coran il y a très très longtemps. Et c'est un très très bel ouvrage. Alors, regardez, quand on ouvre, on a ça. Donc ça fait très peur, parce que ça, c'est des lettres qu'on ne connaît pas. Donc on nous a appris que ça faisait peur, que c'était horrible. Et c'est tellement terrifiant que, comme on est perdu, on ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je vais vous lire deux textes. Regardez celui-ci, dans la sourate 35. « Ô homme, souvenez-vous des bienfaits dont Dieu vous a comblé. Y a-t-il un autre créateur que Dieu qui vous nourrisse des dons du ciel et de la terre? Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Pourquoi donc vous en détournez-vous ?» Et puis si on lit dans la Bible, dans Deutéronome, « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent de près ou de loin d'un bout ou l'autre de la terre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu n'useras pas de ménagement et tu ne couvriras pas, mais tu devras le tuer, ta main se lèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite, tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te pousser loin de l'Éternel ton Dieu. » Si je vous avais lu ces phrases sans vous dire d'où est-ce qu'elles venaient, on aurait peut-être eu tendance à dire que la première c'était la Bible, la deuxième c'était le Coran. Or c'est le contraire. Donc vous voyez bien que le contexte fait que on peut, en étant mal informé, mal éduqué ou de mauvaise foi, au sens premier du terme, faire dire ce qu'on veut aux choses, ce qu'on veut aux événements. Et tout ça est extrêmement troublant. Je vous disais, je parlais de mon désarroi. Et ce désarroi-là ne fait que s'accroître avec l'âge. Donc je pensais pourtant qu'avec l'âge, il irait en déclinant. Je reste dans Colossiens. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais pour mieux comprendre ce que nous allons lire, il faut, je pense, être d'accord avec ce contexte dont je vous parle et que je pense, a priori, vous devez partager dans les grandes lignes. Et nous arrivons donc à ce que tout ça crée un sentiment de peur. La peur, je vais vous lire un article, encore du Point, il se trouve que je ne fais pas de pub pour eux, hein, d'un célèbre psychanalyste, qui Jean-Pierre Winter, qui a droit à une page entière, et qui nous dit ceci à propos de tous ces événements. « Je veux dire que la plupart des êtres humains éprouvent la peur sans le savoir, sans la nommer. » C'est même ce qui mène beaucoup de patients sur le divan des psychanalystes. Peur de leurs actes, de l'inconnu, peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Nous vivons dans un monde qui est devenu illisible et l'incompréhension est sans doute la cause première de la peur. Il est peut-être bon de rappeler que ces, entre guillemets, fous de Dieu sont des individus qui ont probablement encore plus peur que les autres. Voilà pourquoi ils se sont fabriqués des ennemis communs, les monstres occidentaux que nous sommes censés être pour se libérer de leur propre frayeur. Ils sont même prêts à faire le sacrifice de leur corps pour ne plus avoir peur. Leur tentative désespérée et désespérante de s'en libérer passe par la soumission à une interprétation d'une religion. Les nôtres, donc nos tentatives désespérées, passent par la folie de la science, dont nous savons qu'elle charrie avec elle une effrayante capacité de destruction. Et sa conclusion est la suivante. Au bout du compte, en nous et hors de nous, la guerre oppose les folies de l'illusion religieuse aux folies angoissantes des progrès scientifiques déshumanisants. Donc, il renvoie dos à dos ce qui est censé être le progrès scientifique qui vient du génie humain et en même temps les illusions de la religion qui sont censées fabriquer seulement des monstres ou des gens faibles qui, du coup, n'apportent pas les bonnes réponses aux peurs qui nous tenaillent tous. Et ces peurs-là, il en est question dans Luc 21, 8, 12, puisque ce sont celles, la plus grande peur que tout le monde a, c'est donc sa propre fin, et évidemment c'est la fin du monde. Nous pouvons lire dans donc des versets que vous connaissez parfaitement, chapitre 21, « Prenez garde d'être séduits, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi et le temps est proche, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. » Alors il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. » On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom, etc. etc. Et cette vision terrifiante de ce qui nous attend et dont on a l'impression, en le lisant, que nous sommes déjà bien dedans, va être corroborée par ce qui est le levain de tout ce mal qui est produit par des hommes. Et les hommes, en chacun d'eux, ont les défauts suivants. Là encore, c'est des textes que vous connaissez, mais que je veux vous relire. Marc 7, chapitre 20 à 23. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regards envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et ceci est répété, et vous voyez que nous y venons dans Colossiens, donc ce qui avait été lu, étudié par Daniel la semaine dernière, Colossiens chapitre 3, et au verset 5, « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. » Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques, et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle, etc. là aussi. Donc, on voit bien qu'il y a en nous ce mal présent, dont personne ne peut se dire qu'il est épargné. Et c'est la somme de ces maux individuels qui crée le mal collectif et qui fait que notre terre vit ce qu'elle vit et depuis si longtemps. Et là, nous avons le sentiment d'être encore plus concernés. Mais si nous regardons l'histoire du monde, nous voyons que ce n'est que malheureusement un éternel recommencement. Alors, que faire face à toutes ces menaces qui nous dépassent? On a l'impression que l'échelle des problèmes du monde, en fait, n'est pas à notre échelle. On écoute, on voit, on regarde, on lit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se sent totalement impuissant et alors on fait des minutes de silence, on chante des Marseillaises, on plante des drapeaux français, on envoie le Charles de Gaulle, on fait des COP 21, parfois même on s'envoie des mails, on essaye de dire, regardez ce que j'ai lu, ce qu'on me dit, il faut faire attention à ci, faire attention à ça. Mais en fait, on est totalement dépassé, impuissant, parce que on sent bien que individuellement, même en se mettant plusieurs avec une bonne volonté, rien n'avance. C'est pas nous qui avons avancé les choses. Et je me demande même si les grands responsables, quand ils vont se réunir ensemble, là, par exemple pour la COP 21, ou qui se sont réunis précédemment pour ces histoires de violence dans le monde, eux-mêmes doivent, dans le secret de leur délibération, sentir un sentiment d'impuissance face à tant de problèmes à résoudre qui dépendent de tellement de facteurs difficilement contrôlables. Et la seule réponse qu'il y a, et c'est Dieu qui nous le dit, elle est individuelle. C'est ça le génie du christianisme, c'est de dire que le collectif sera sauvé par l'individu. Ce qui est exactement le contraire du communisme, où c'est le collectif qui sauvait l'individu, normalement. Là, c'est le contraire. Et c'est ça qui est difficile à mettre en place, parce que, par définition, les individus sont individus, sont individuels, sont autonomes, et puis ils ne font que passer. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les individus naissent, essaient de vivre comme ils peuvent, on essaie de les améliorer, mais peut-être quand ils s'améliorent, ils meurent. Alors, après, il faut recommencer avec la nouvelle génération, ça n'arrête jamais. Donc, c'est un sentiment d'impuissance dont je vous parlais sur des événements précis, mais si on essaie de mettre la focus arrière, en quelque sorte, de faire un plan large, et qu'on regarde la Terre d'en haut, on se dit, mais c'est tout ça est injouable, tout ça est perdu d'avance, tout ça est hors de proportion par rapport à nos envies, nos moyens, même notre besoin d'amour, tout ce qu'on peut faire. Et il nous revient à ce moment-là une phrase de Jésus qui peut-être est aussi un début de réponse. par rapport à la fameuse pièce de monnaie, faut-il payer l'impôt, ne pas payer l'impôt, et qui dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et rendre à César ce qui est à César, eh ben c'est peut-être laisser aux hommes, qui en ont finalement la responsabilité, puisqu'il y a très longtemps, dans le jardin d'Éden, ils ont pris la décision de leur indépendance, laissons aux hommes la marche du monde, laissons aux hommes les grandes idées, les grandes philosophies, les grands discours, les journaux, les publicités, le reste. Et nous, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire notre vie personnelle, nos rapports avec les proches, nos proches, où là peut-être notre zone d'influence, elle n'est pas si neutre que ça, elle n'est pas si négative, elle n'est pas si proche du néant. Je ne peux rien faire pour que un djihadiste ne fasse pas exploser, je ne peux rien faire pour qu'on ne souffre pas au Mali, je pense rien faire pour que en Amérique, chez les Indiens, ça se passe mieux. D'ailleurs, Daniel s'en est rendu compte un peu, parce qu'il est revenu un peu disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Par contre, je peux peut-être faire quelque chose pour que Georgette aille mieux s'il y a un problème. Que ma chère Roxane se sente moins seule, que Tahar puisse se sentir aidé dans son combat d'évangélisation auprès de ses frères maghrébins. Je pourrais prendre chacun l'un après l'autre et pourriez faire pareil pour moi. C'est ça, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce qu'on va faire au sein de peut-être notre église même qui va changer quelque chose. Écoutez, oui, ça va pas changer la marche du monde. Les guerres continueront, tout va exploser, tout va péter, on va prendre 5 degrés dans les 20 ans, peut-être, dans les 100 ans. Tant pis, c'est pas grave. Nous n'en sommes plus là parce que dans Colossiens, justement, il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu et au verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. N'ayons plus peur, nous sommes morts. C'est fait. Je vous donne rendez-vous ici dans 50 ans. Les plus jeunes étant montés, il n'y aura plus un seul d'entre nous. Donc voilà. Après, c'est qu'une question de temps. Il faut se mettre d'accord sur ça, mais c'est dérisoire. Par contre, le temps où on est là aujourd'hui, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Voilà, ça c'est ce qui est sur la terre. Ce qui est en haut, c'est ce que j'ai là, c'est ma sœur, c'est mon frère. Ce qui ne veut pas dire de nous désintéresser de la marche du monde, puisque nous sommes citoyens. Et ça fait partie de rendre à César ce qui est à César, c'est nos impôts, c'est notre participation à une aide collective quand il faut aider... à donner de la nourriture, à, je sais pas, enfin, tout ce qui est notre vie sociale, mais sans oublier que nous sommes déjà morts et que nous devons penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Il n'y a pas marqué désintéressez-vous de ce qui est sur la terre, il dit pensez à ce qui est en haut. Donc on peut avoir notre esprit qui est déjà avec notre Dieu, même si notre corps est encore sur terre. Et c'est la clé de ce livre-là, de ce livre des Colossiens dont on a déjà beaucoup parlé. C'est que ce livre-là, il s'adresse à des gens particuliers. Il ne s'adresse pas à tout le monde. D'abord, il s'adresse à des gens comme nous, des païens, qui avons reçu l'évangile. Chapitre 1, verset 6. « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité. Nous étions rien, nous n'étions pas des enfants d'une famille spécialisée, de la famille de Jésus, mais on a reçu, par chance, cette parole. Nous croyons à la primauté du Christ, chapitre 1, toujours verset 13-14. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ça, nous y croyons. Nous sommes des gens qui n'avons jamais vu l'apôtre Paul. Comme il est dit au chapitre 2 des Colossiens, quand il s'adresse aux Colossiens, il dit bien, chapitre 2, verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Nous sommes aussi des gens entourés de multiples dangers, entre guillemets, intellectuels, des dangers terrestres. Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Et enfin, nous savons que nous avons la vie nouvelle en Christ. J'ai déjà lu ce verset au chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ. » Oui, nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc, Colossiens, ça nous concerne, nous. Ça ne concerne pas tout le monde. Je vais dans la rue, je vais lire Colossiens à des gens. Non, c'est une erreur. Parce que peut-être que ces personnes n'ont pas entendu l'Évangile, n'ont pas accepté la primauté du Christ dans leur vie. Par contre, c'est sûr qu'ils n'ont jamais vu Paul. Ça, on en a un, mais ce n'est pas le bon. Je suis désolé, même si on l'aime beaucoup. Ils sont tous entourés de dangers intellectuels, mais peut-être qu'eux ne les soupçonnent pas. C'est-à-dire que ça, si ça devient une lecture quotidienne, hebdomadaire, pour le coup, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal, qui peut pourrir l'intérieur. Et enfin, ils n'ont sans doute pas la vie nouvelle en Christ. Donc pour ouvrir le livre des Colossiens, il faut déjà remplir toutes ces clauses-là. Ce qui me fait dire que ce livre-là, c'est pas un livre pour tous, c'est un mode d'emploi interne. C'est une notice pour gens de la même entreprise. L'ouvrage de propagande à mettre entre toutes les mains, ce sont les évangiles. Ça oui, c'est fait pour ça. Et Jésus, il est venu pour ça. Pour les gens qui ne connaissaient rien, dire « Regardez, je suis là et je vais vous dire des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous concerner, qui vont essayer de vous faire changer d'avis, de vous faire comprendre qui je suis et pourquoi vous devez changer. » Et une fois que ces choses-là ont été acceptées, à ce moment-là, si vous remplissez les clauses dont je viens de parler, oui, on va passer à l'étape suivante, mais ça c'est un livre qui va circuler que entre nous, parce que sinon il va être très mal compris, c'est entre autres le livre des Colossiens. Et imaginez simplement ce qui sera le thème du prochain prédicateur, je ne sais pas qui se charge, le verset 18 qui est juste après moi, heureusement. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » Non, il faut vraiment être dans le monde de notre entreprise de Jésus pour essayer de comprendre ce que ça veut dire et l'accepter et pas le prendre mal. Aller donner ça à n'importe qui, c'est terminé, c'est même plus la peine. Jésus n'a jamais rien dit de tel. Donc, quand on s'occupe des Colossiens, et qu'on l'étudie, c'est parce que nous avons tout le contexte dont j'ai parlé en tête, et que ce contexte, nous savons nous mettre en recul par rapport à lui, parce que nous appartenons à notre Seigneur. Et à ce moment-là, nous pouvons entendre le texte dont j'ai la charge aujourd'hui, de Colossiens 3, 12 à 17. Donc je vais vous le lire. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Là, évidemment, si on est entre nous, avec tout notre arrière-plan, non pas culturel mais spirituel dont j'ai parlé, peut-être que ces phrases ont du sens. Et même avec ce que nous savons et ce que nous vivons et notre foi en Jésus et toutes nos clauses d'entrée dont j'ai parlé bien ancrées, même ça c'est difficile à, non pas à comprendre, mais à mettre en place. La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, la barre est mise très haute. Mais la barre est mise très haute parce que nous devons penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Si j'applique ça à ça, c'est inutile. Ça n'a pas de sens. Si j'explique aux gens qui sont là-dedans ça, je prêche en vain. C'est idiot, c'est nul. Parce que la seule chose que je dois prêcher, c'est Jésus. Jésus venu, Jésus qui sauve, Jésus qui a un message pour nous, Jésus qui dit « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Jésus qui dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des malades. Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Sois sans crainte, crois seulement. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. J'ai compassion de cette foule. Tout est possible à celui qui croit. Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Que désirez-vous que je fasse pour vous? Ayez foi en Dieu. » Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà les paroles que dit Jésus aux hommes. Voilà ce que l'homme doit d'abord entendre pour s'éloigner des douleurs du bas et penser à ce qu'il y a en haut. Et à ce moment-là, peut-être passer à l'étape numéro 2, celle de notre notice interne, où là, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience vont pouvoir se mettre en place. Mais respectons ces étapes-là. Et nous, à notre petite échelle, je reviens à cette histoire-là, oui, nous devons mettre en place ceci. Et c'est ce que nous dit les Colossiens. Précédemment, ils nous parlent de l'impureté des passions, des mauvais désirs, je l'ai lu. Ça ne nous concerne plus. Ça ne devrait plus nous concerner. C'est là-dedans. Nous, Paul nous dit, puisque vous pensez en haut, mettez ça en place. Et vous le pouvez. Et vous le devez. N'allez pas faire ça dans un monde qui ne peut pas vous comprendre. Il n'est pas prêt. Mais faites ça auprès de vous. Entre vous. Et ce qui se passera à ce moment-là, quand on mettra ça en place... Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et après l'amour, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Cet amour va entraîner cette paix, qui est le contraire de la peur dont j'ai parlé. Et seulement après, soyez reconnaissants. Donc si on fait la marche arrière, nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous supportons, de ce que nous recevons parce que nous avons la paix. Et nous avons la paix parce que nous avons donné de l'amour. Et nous avons donné de l'amour parce que nous avons été patients, doux, humbles, bons, compatissants. Et là, c'est peut-être ça, penser à ce qui est en haut. C'est inverser l'ordre des priorités. C'est... Je ne serai reconnaissant de ce que j'ai que parce que avant j'aurais franchi les étapes précédentes. Or, le monde aujourd'hui veut la reconnaissance immédiate sans s'être passé par les marches dont j'ai parlé. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience qui créent de l'amour. L'amour crée la paix et la paix à ce moment-là crée la reconnaissance. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est encore des mots. Oui, mais comment est-ce qu'on va y arriver? À notre petite échelle, à nous, entre nous. Eh bien, c'est indiqué au verset 16, qui est un verset très très riche, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Paul, tu disais tout à l'heure aux jeunes, comment pouvez-vous entendre Dieu? Mais dans sa parole, c'est absolument ce qui est écrit là, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole? Puisque c'est ce que Paul nous conseille à nous, entre nous. Hein, nous, les initiés. Je vais vous faire un petit résumé très rapide de ce que la parole transporte, charrie de positif. Donc cette parole qui habite en nous avec sa richesse, voilà la richesse de cette parole. D'abord, elle est impérissable. Marc 13, 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Cette parole de Christ, elle est pleine de grâce. Luc 4, 22. Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ces paroles sont pleines d'autorité. Luc 4, 32. On était frappé de son enseignement car il parlait avec autorité. Elles sont spirituel. Jean 6, 36, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles apportent la vie, justement, dans Jean 6, 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Elles sont incomparables. Jean 7, 46. Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Mais c'est aussi des paroles de jugement. Jean 12, 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Et enfin, elles sont évidemment divines. Jean 14, 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Mais ces caractéristiques-là, ce sont aussi des fondations qui nous donnent une promesse. Il y en a 6 des promesses pour ceux qui gardent cette parole. D'abord, la vie éternelle. Jean 8, 51. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Ensuite, elle donne une présence constante du Consolateur. Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous. » Il permet la communion avec Dieu. Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Autre promesse, dans Jean 17, 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Enfin, c'est l'autre promesse de ces paroles, c'est qu'elles nous donnent une assurance. 1 Jean 2, 3. « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » Et enfin, ces paroles nous donnent l'accès à Dieu. Apocalypse 3, 8. « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Voilà ce que ça veut dire que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Et si on se nourrit de cette parole, de ses caractéristiques et des promesses qu'elle induit, à ce moment-là, peut-être que nous pourrons encore être plus forts dans ce que nous, lorsque nous pensons aux choses d'en haut, et qu'entre nous, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience seront présents. Donc, tout ça donnera l'amour, qui nous donnera la paix, qui nous donnera la reconnaissance. Mais à notre échelle, n'allons pas plus loin, parce que c'est pas possible. Et tout le chapitre qui suivra sur « Femmes, soyez soumises à vos maris, enfants, obéissez en tout à vos parents », ne le regardons pas sous l'angle de ce monde-là, parce que il ne peut pas le comprendre. Enfin, je voudrais conclure sur la suite du verset 16. Donc, la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Mais ça ne suffit pas. Il est dit, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Toujours, on reste entre nous. J'avais dit que nous étions des individus, oui, mais dans l'Église, nous sommes des individus qui sont réunis ensemble et à notre petite échelle, faisons ce qui est demandé. Instruisons-nous les uns les autres. Avertissons-nous réciproquement. Et comment ? En toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Et ce dernier verset, « Chantez à Dieu de tout votre cœur. » Nos amis, frères et sœurs, qui prennent du temps pour la chorale, pour les chants, c'est une importance énorme pour nous. Quand nous chantons, chantons vraiment. Il s'est marqué « Chantez à Dieu de tout votre cœur ». Et c'est une manière de s'avertir réciproquement, de s'instruire les uns les autres, et peut-être de faire grandir cette parole du Christ qui habite en nous avec sa richesse. Ne méprisons pas ce temps-là. Il est peut-être plus important que nous ne le croyons, c'est pas simplement de la décoration, c'est peut-être aussi une manière de se donner une force, comme des attelles qui vont bien nous tenir pour pouvoir tenir cette vision d'en haut dont il est parlé dans Colossiens et que le monde ne peut pas comprendre et que nous devons admettre et qui peut-être non pas va nous protéger, ou nous sauver de cet environnement mortifère qui est le nôtre, parce que nous sommes déjà morts, mais qui va nous permettre d'être vaillants, de tenir jusqu'au bout, d'être fidèles à sa promesse, de nous faire du bien les uns les autres, et peut-être qu'à force de se faire du bien les uns les autres, en pensant à ce qu'il est pour nous, Jésus, eh ben, ça fera des petits, d'une manière ou d'une autre. Mais ça, je suis persuadé que ce n'est vraiment pas notre problème. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, et laissons à César ce qui est à César, car, verset 17, « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. »